Radio Galère 88.4 de la bande FM marseillaise DAB+. L'histoire continue et permanente, une émission d'Éric Lebreux. Mémoire de militant, Jacques Jourquet, du maquis au maoïsme, première partie, un enfant de la Grande Guerre. Là, on va faire une nouvelle rubrique qui est la série Mémoire de militant. Alors, le but, c'est de connaître l'itinéraire d'un militant, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, non pas de manière héroïque ou hiérographique, mais pour comprendre ses choix, ou ses bons ou mauvais, et des personnes qui se sont engagées dans la vie politique ou sociale, pour que les plus jeunes militants en tirent des leçons sur les réussites et les échecs des anciens. Tout le but de cette émission-là. Et là, on va parler de Jacques Jourquet. Alors, c'est Jacques Jourquet du maquis.
Bien connu à Radio Galère.
Voilà, je vais expliquer ce qu'il est. Jacques Jourquet du maquis au maoïsme. Jacques Jourquet est un militant politique et résistant français. Il est né le 2 avril 1922 à Marseille et est décédé le 22 novembre 2020 à Plaisance-sur-du-Touche, dans un EHPAD, à l'âge de 98 ans. Il a vécu assez longtemps. C'est quelqu'un qui est issu d'une famille de gauche. Son père était un militant SFIO pendant l'entre-deux-guerres.
SFIO, tu veux dire?
Oui, SFIO. La section française de l'Internationale ouvrière, oui, qui était le parti socialiste de l'époque, précédent, donc de Lomblom. Et très tôt, il s'engage dans le militantisme antiraciste et antifasciste. Il s'engage dans la résistance et il rejoint un maquis dans le Jura pour échapper au STO. Il adhère au Parti communiste français et pendant la guerre d'Algérie, il est en désaccord avec la ligne du Parti communiste français. Il est exclu en 1964 et fait part de ceux qui ont fondé en 67 le Parti communiste marxiste-léniniste de France, le PCMLF, qui était le seul parti maoïste reconnu par la Chine.
Oui, c'est ça.
Et après, dans les années 80, il se détache du régime chinois et retourne ses amours premiers dans le militantisme antiraciste en dirigeant l'OMRAP de Marseille. Il était connu au OMRAP dans les années 80-90.
Bien connu.
Et c'est à cette époque-là qu'il a rejoint l'équipe de Radio Galère et en faisant régulièrement des émissions d'histoire dans laquelle j'ai participé. Alors c'est vrai que moi qui étais trotskiste, c'était fascinant de voir un trotskiste aller faire des émissions avec un ancien stalinien.
Oui, c'est vrai.
Mais fait un moment qu'on parlait de choses qui ne fâchaient pas. Alors, en 95, je l'avais interviewé sur sa vie et diffusé les premières émissions sur les ondes de Radio Galère. Et là, on va passer une rediffusion en plusieurs épisodes, bien sûr. Et là, c'est les premières parties, c'est Jacques Jourquet, un enfant de la guerre. Alors, il parle plutôt de ses origines familiales et le fait que son père a fait la guerre de 14-18. Alors, on écoute ce témoignage.
Amy est tout à fait représentative de la petite et moyenne bourgeoisie de la fin du 19e siècle, puis de la première moitié du 20e siècle. Mais ce qui est assez curieux, c'est que mon ascendance familiale, au moins au niveau des grands-parents, appartient à deux courants idéologiques et politiques, si l'on veut, complètement différents. Du côté de mon père, j'ai affaire à un courant profondément anticlérical. Ce sont des Lozériens qui ont dû souffrir des prêtres, de l'influence du catholicisme dans ce département. Et c'était des intellectuels, enfin de petits intellectuels. Mon arrière-grand-père était instituteur, mon grand-père était instituteur avant d'être fonctionnaire des contributions indirectes, et mon père était professeur de physique-chimie, il a fini comme principal de collège. Cette branche-là était très anticléricale. Si l'on ajoute qu'en ce qui concerne mon père, en plus de son anticléricalisme de formation, d'éducation, de par son propre père, il avait vécu la guerre de 14-18 et il était devenu profondément antimilitariste. Il était, disons, anarcho-libertaire en 1912, et puis au moment du congrès de Tours, il opte pour Léon Blum, parce qu'il a une admiration intellectuelle pour Léon Blum. Par conséquent, il appartient au Parti Socialiste. À ce moment-là, il est favorable au Parti Socialiste SFIO, c'est-à-dire la section française de l'Internationale Ouvrière, qui rejette les 21 propositions de l'Internationale Communiste venue de Moscou. Ça, c'est du côté de mon père. J'ajoute que mon père va évoluer, il appartiendra à une tendance d'extrême-gauche à l'intérieur du Parti Socialiste, qui s'appelle la tendance Marceau-Pivert, qui est trotskisant, mais enfin, il n'est pas seulement trotskiste, puisqu'il y a aussi Zyromski, qui va devenir communiste après 1945, sénateur communiste. Et finalement, mon père, sur ses très vieux jours, juste avant de mourir, quelques années avant de mourir, finira par adhérer au Parti communiste français, rejoignant ainsi ses propres enfants qui s'y trouvent. De l'autre côté, du côté de ma mère, alors là, j'ai affaire à une ascendance de la bourgeoisie moyenne. Mon grand-père était pharmacien, mais ruiné en 1914 parce qu'il était associé avec un Allemand et il tenait la pharmacie de la rue Polak, de la rue Saint-Fréolo, de la rue de Rome, je crois. Du jour au lendemain, son associé qui était Allemand est parti avec la caisse et mon grand-père s'est trouvé en faillite. Ce qui fait qu'il est devenu, après la guerre 14-18, il est devenu pharmacien de l'assistance publique et il a tenu pendant longues années la pharmacie de l'assistance publique qui est au 11 rue de Lodi, tout près de l'église Notre-Dame-du-Mont, de la place Notre-Dame-du-Mont, dans la rue de Lodi par conséquent. Et ma grand-mère, qui était une femme cultivée aussi, elle avait ce qu'elle appelait son brevet supérieur, qui correspondrait aujourd'hui très largement au bac, ma grand-mère était aussi d'origine bourgeoise, son père étant entrepreneur de serrurerie, de travaux publics, mais c'était des gens, tous les deux, qui étaient profondément religieux, catholiques. Il y a des choses très intéressantes à raconter, que je raconte d'ailleurs dans l'écriture de mes souvenirs, c'est qu'ils ont perdu un fils de 19 ans qui venait d'être nommé sous-lieutenant sortant de Saint-Cyr à Verdun en 1916. 19 ans et une semaine, il a été tué d'un éclat d'obus dans le cœur. J'ai l'éclat d'obus encore ici qui a été retrouvé dans la pièce à côté dans une boîte. Et il faut dire que ces gens-là, pendant 8 ou 10 ans, ils ont recherché le cadavre, le squelette de leur fils sur le champ de bataille de Verdun. Ils ont fini par le retrouver d'ailleurs. Ils l'ont cherché avec l'aide de terrassiers, de gens comme ça. Et quand ils l'ont retrouvé, mon grand-père a fait un poème et puis une longue lettre à un prêtre pour exprimer le fait que c'était Dieu qui lui avait rendu son fils. Il était absolument persuadé que c'était le bon Dieu. Bien. Alors voilà la double origine, d'un côté très pieux, d'un autre côté anticléricaux. Je dois dire d'ailleurs que ça va avoir de l'influence sur moi, puisque même si je suis baptisé catholique à l'église Notre-Dame-du-Mont, après être né rue des Bons-Enfants, exactement comme Patrick Covin d'ailleurs, si je suis baptisé catholique, au moment de ma communion solennelle, incité par mon grand-père paternel, je vais refuser très catégoriquement et je ne ferai jamais la communion solennelle. Que mes amis chrétiens de bonne foi et de foi tout court, et qui sont des gens honnêtes, veuillent bien me pardonner, mais c'est ainsi que j'ai réagi à une éducation qui était tout à fait orientée, ce qui n'était pas du goût de l'autre côté de mon ascendance, c'est-à-dire du côté de mon grand-père très pieux et très religieux. Alors, pour parler un peu de la conscience politique de mon ascendance, je dirais que mon grand-père, il lisait, à l'époque que je me souvienne bien, il lisait Le Petit Marseillais, mais Le Petit Marseillais était un journal de droite, avant la guerre. Il lisait Le Petit Marseillais, puis après Marseille Matin. Et c'est très amusant parce que sur la fin de ses jours, lorsqu'elle avait 89 ans, mon grand-père était déjà mort, il avait 67 ans, ma grand-mère, qui était dans un couvent de religieuses à Grignan, exactement, elle continuait à acheter chaque jour le journal La Marseillaise après la guerre de 45. Et alors les religieux lui disaient, mais Madame Guèche, vous vous rendez compte, vous lisez un journal communiste. Elle dit, oh, moi, écoutez, foutez-moi la paix, parce qu'elle avait son franc-parler, foutez-moi la paix, c'est le journal que j'ai lu toute ma vie. Effectivement, La Marseillaise avait la même calligraphie en tête, de la calligraphie bleue, que Le Petit Marseillais qu'elle avait lu tout le restant de sa vie. C'était très drôle. Mais du côté de mon père, donc disons que l'arrière-grand-père était franc-maçon, il était à Mende, en Lozère, il était franc-maçon, j'ai la preuve certaine. Mon grand-père, il n'a pas fait beaucoup de politique, mais je pense qu'il était évidemment athée, mais il a dû appartenir un certain temps au Parti radical et radical socialiste. Je parle évidemment des années 30 ou plus tard. Hein. Et puis, mon père, par contre, lui, donc je l'ai dit tout à l'heure, il appartenait au Parti Socialiste FIO, il était secrétaire de la section socialiste quand il était professeur à Fontainebleau, pendant de longues années, secrétaire de section socialiste SFIO. Quant à ma mère, qui, elle, était issue donc de ce milieu catholique très ardent, elle est devenue, sous l'influence de son mari certainement, complètement athée et féministe des années 30, s'occupant en particulier des femmes victimes, des femmes battues, mais aussi même des prostituées, s'est occupée de tout ça, et avec d'autres femmes, et elle est devenue fondamentalement antiraciste dès les années 33-34, ce qui fait que à cette époque-là déjà, mon père recevait à Fontainebleau, à son domicile, des Flüchtlinge, c'est-à-dire des fugitifs allemands, membres du Parti Social-Démocrate allemand, plusieurs d'entre eux étant juifs par-dessus le marché, qui avaient tout ce qu'il fallait pour ne pas plaire à Hitler et qui fuyaient. De là, le Parti Socialiste leur donnait un peu d'argent pour les acheminer sur Londres et après je sais pas où ils allaient. Je rencontrais l'année dernière à l'Institut Goethe, ici rue de Rome à Marseille, une femme qui doit être professeure de faculté à Nanterre, je crois, Madame Roussel, ou Rouxel, qui faisait une étude justement sur la manière dont un certain nombre, très très limité d'ailleurs, de Français ont soutenu des fugitifs allemands. Mais d'un côté, il y a eu le Parti communiste français, naturellement, qui a apporté une solidarité aux communistes allemands. Et d'un autre côté, il y a eu le Parti socialiste, c'est certain, mais d'une manière très minoritaire. Hein. Mon père était dans le coup. Et ce qui ne lui a pas plu du tout à mon père, c'est qu'au moment du gouvernement de Front Populaire, là nous sommes en 33-34, mais au moment du gouvernement de Front Populaire, il a été convoqué au ministère de l'Intérieur. Oui, donc je disais que mon père était convoqué au ministère de l'Intérieur à Paris. On lui a dit qu'on était tout à fait au courant de ce qu'il avait fait pour aider les Allemands, anti-hitlériens, anti-fascistes. Mais on lui a dit, l'un d'entre eux a été arrêté par nos services spéciaux. Il s'agissait d'un espion infiltré, hein, d'un contre-espion infiltré par les services de Hitler. Et il a dit qu'il avait vécu une semaine chez vous, ce qui était tout à fait exact. Alors le gouvernement vous remercie, pense que vous avez très bien fait de faire toutes ces choses-là, mais maintenant, il faut absolument arrêter. Il faut arrêter immédiatement, parce que nous ne voudrions pas laisser le moindre prétexte possible à Hitler pour s'énerver contre la France, pour mal nous juger, et nous vous demandons, Monsieur Jourquet, de cesser ses activités. Mon père, qui était un homme certainement extrêmement sincère et humaniste sur ce plan-là, et également très incité par ma mère, profondément antiraciste, pour des raisons que je n'ai pas expliquées, mais que je vais te dire, mon père l'a assez mal pris. Mais de fait, il a cessé ce travail, qui n'a pas d'ailleurs pas duré bien longtemps, ni pour les uns, ni pour les autres. Pourquoi ma mère était profondément antiraciste? Tout simplement parce qu'en 1916, elle était élève au lycée Montgrand à Marseille, et sa meilleure copine était une jeune fille de famille juive. Et c'est à ce moment-là que l'annonce de la mort au combat à Verdun de son frère, Alphonse Guesch, donc mon oncle, lui est arrivée. Ma grand-mère et ma mère étaient très très secouées. Ma mère, qui était une jeune fille à ce moment-là, faisait une véritable dépression. Et la fille qui a été la plus solidaire d'elle, et qui l'a aidée à, on se console pas, mais enfin qui l'a aidée à surmonter cette épreuve, était cette copine juive. Et depuis cette époque-là, ma mère avait toujours été profondément hostile à l'antisémitisme, et au racisme anti-juif, et toujours solidaire des juifs. Voilà, je crois, en gros, mes ascendances de mon père et de ma mère. C'est-à-dire, je crois que, globalement, c'est une ascendance, des deux côtés, c'est une ascendance humaniste, profondément humaniste. Et d'un côté, on peut dire que c'est une ascendance également politique, politique de gauche, enfin, en voyant un peu large.
Mais la paix perd ses dernières chances lorsqu'au café du Croissant, Jean Jaurès est assassiné. Son compagnon, Pierre Renaudel, se souvient.
« Allons dîner au plus près, au Croissant, dit-il, nous y serons davantage entre nous. Il est déjà 21h40, on va remonter au journal pour l'article. Tout à coup, le brise-bise s'agite brutalement et se déplace. Une main s'avance vers la tête de Jaurès. Un scintillement de nickel, deux éclairs, deux claquements. Dès le premier, Jean Jaurès s'est incliné doucement sur le côté gauche. Une clameur déchirante et aiguë de Marguerite Poisson. Ils ont tué Jaurès! Ils ont tué Jaurès!
Ils étaient usés à 15 ans. Ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès ? pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Je peux dire que je suis un enfant à l'âge que j'ai. Je suis un enfant, bien sûr, je suis un vieillard. Mais enfin, je suis un homme dont la vie, l'existence entière aura été placée au départ sous le signe de la guerre 14-18. Je suis un enfant de la guerre 14-18. Je suis né en 1922 et mon père, lorsque j'étais enfant, ne cessait jamais de raconter. Il y en a beaucoup qui ne racontaient jamais rien. Lui, il racontait. Il racontait à ma mère, plus qu'à moi, mais j'avais des oreilles baladeuses et j'entendais absolument tout. Ce qui fait que mon enfance, disons de 5 à 10, 12 ans, a été nourrie des souvenirs de guerre de mon père. Et j'étais très impressionné. J'étais même tellement impressionné que il arrivait que le soir je faisais des cauchemars. Que le soir je faisais des cauchemars dans ma chambre. J'avais peur. J'étais dans une chambre tout seul dans l'obscurité et je voyais des squelettes parce que mon père racontait souvent l'histoire dans les tranchées, dans la boue avec les rats, les squelettes en train de pourrir ou les types qui étaient blessés entre les lignes. Puisque c'était une guerre de position entre les tranchées allemandes et les tranchées françaises, des types qui avaient fait des patrouilles mais qui étaient blessés et en train de mourir, et qui pendant toute une nuit appelaient leur mère, « Maman, maman !» Alors mon père racontait tout ça, et moi l'enfant, j'étais profondément sensibilisé et impressionné par tous ces faits. Et il arrivait que le soir, alors, dans l'obscurité, je voyais, j'apercevais des squelettes. Et j'avais une peur, une trouille terrible. Et je me mettais à crier, ma mère arrivait, « Qu'est-ce que tu as ?» Et comme j'avais honte de dire que je voyais pas, j'avais honte de dire que je voyais des squelettes parce que je savais très bien que c'était irréel, que ça correspondait pas à une réalité. Alors je disais, j'ai peur parce que je crois qu'il y a un lion dans ma chambre. En vérité, naturellement, je savais bien que tout ça était faux, mais c'était plus fort que moi. Et enfin, bon, bah, j'ai un fils qui est psychanalyste. Peut-être si je lui raconte ces histoires-là, il en tirera des conclusions. Moi, je n'ai jamais tiré de conclusion autre que celle du fait que ma sensibilité d'enfant a été extrêmement touchée par les souvenirs que mon père ne cessait pas de raconter. Deuxièmement, je veux te dire ceci. C'est que en plus des souvenirs qu'il racontait, que verbalement j'ai entendu, j'ai retrouvé alors beaucoup plus tard, quand ma après le décès de ma mère, j'ai retrouvé dans tous les papiers, parce que c'était une vraie conservatrice d'archives, j'ai retrouvé tout le paquet des lettres manuscrites que j'ai par là sur une étagère de mon père, envoyées d'abord d'Aubagne où il a commencé non pas la guerre mais l'armée, et puis ensuite de la Marne, du ballon de Guebwiller en Alsace, puis de Verdun, jusqu'au moment où il a été blessé grièvement. Et toutes ces lettres, presque tous les jours, étaient adressées à ses parents qui habitaient rue d'Aubagne, en bas de la rue d'Aubagne. Et ces lettres constituent un document extrêmement précieux pour suivre la vie d'un jeune sous-officier qui va devenir sous-lieutenant après pas mal de péripéties, et puis qui va être blessé effectivement quelques jours après avoir accédé au corps des officiers. Et dans ses lettres, il raconte un tas de choses, les horreurs. Il raconte les horreurs de la guerre, il raconte sa première patrouille. Et dans sa première patrouille, il aperçoit à quelques mètres de lui une autre patrouille. Mais c'est une patrouille avec les casques pointus, c'est-à-dire une patrouille de l'ennemi allemande. Et il fait signe aux deux ou trois hommes qui sont avec lui. Il fait signe à deux solutions, ou bien ils vont leur sauter dessus et les transpercer à coups de baïonnette, ou bien vont se replier en douce. Et mon père a choisi de se replier. Non pas, je pense pas qu'il ait eu peur de l'affrontement, mais parce que ça ne lui plaisait pas, d'après ce qu'il m'a expliqué, ça ne lui plaisait pas de tuer. Et il était absolument hostile à trancher, à tuer à coups de baïonnette. Voilà. Alors, j'ai toutes ces lettres-là, je m'en suis servi pour l'écriture de mes souvenirs, et puis je les ai rassemblées, je les ai recopiées, et j'aimerais bien trouver d'ailleurs, non pas un éditeur, mais un organisme, bibliothèque ou office d'anciens combattants, enfin quelque chose qui puisse les prendre en considération, parce qu'à mon avis, il y a des choses importantes. Il y a par exemple, dans une lettre, mon père révèle que des avions allemands, c'était déjà à Verdun, je pense, des avions allemands sont passés et ont envoyé des tracts sur les lignes françaises. Et ces tracts étaient des tracts socialistes, sociaux-démocrates, parlant de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht. C'était probablement sans aucune résonance auprès d'un très grand nombre de soldats français qui ignoraient jusqu'au nom de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, mais mon père ne les ignorait pas du tout. Et alors, dans sa lettre, il dit « Nous n'en avons plus pour longtemps, ça va très mal en Allemagne, le peuple crève de faim, il se révolte et... » Nos camarades sociaux-démocrates sont sur la brèche, ils vont pousser à la révolution et faire arrêter la guerre, et ils rêvent du jour d'ailleurs où ils vont pouvoir, lui et ses camarades, entrer en Allemagne. Il parle d'ébauche d'ailleurs, il reprend le terme péjoratif utilisé par tous les Français à cette époque-là, et il dit « Enfin nous pourrons retrouver la paix », et il exprime son désir de pacifisme.
Rien ne saura jamais décrire les souffrances endurées par les poilus de Verdun. Clément Compère.
Après les fortes attaques de Verdun, le régiment était épuisé. Alors on est venu en renfort là, puis nous avons remplacé ceux qui n'y étaient plus. On était arrivé là-bas, on était en première ligne, on faisait 9 jours de première ligne, 9 jours de deuxième ligne et 9 jours de repos. On a fait ça tout l'hiver, jusqu'au mois de février-mars. On devait être remplacé parce qu'on avait beaucoup de pieds gelés. Beaucoup de soldats, des jeunes comme moi, qui ont eu les pieds gelés et les pieds noirs, hein, on leur coupait leurs chaussures. Avec les mortières, c'était pas agréable. Hein. Moi, j'en ai eu trois camarades comme ça qui sont partis, et ben, on les a plus jamais revus. Hein. On ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. On leur a coupé les chaussures pour les enlever. Hein. Avec les pieds noirs comme votre appareil, gelés. On a relevé des troupes déjà d'indigènes, tout ça. Ils avaient les pieds gelés au mois d'avril. Ils ne pouvaient plus marcher. Des troupes des gens qui sont habitués au pays chaud, hein. Ils ne pouvaient pas tenir le coup tellement qu'il faisait froid.
Quand au bout du 8 jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut, en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à crâne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchée, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à crâne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur poids. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher tous ces embusqués, ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leur bien. Car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troupions vont tous se mettre en grève. Ça sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
C'était l'Histoire continue et permanente, une émission proposée et animée par Éric Lobreux sur les ondes de Radio Galère 88.4 de la bande FM DAB+. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger en podcast sur le site de Radio Galère.